Donc, avant d'entrer dans la lecture de ce passage, je vous donne des indications sur cette lettre de Paul aux Philippiens, dont on est un peu en manque d'informations, à la fois sur le lieu où cette lettre a été écrite et donc sur la date de sa rédaction. Ce qu'on comprend, c'est que Paul écrit en étant en prison. Il a fait plusieurs séjours en prison, donc c'est difficile de savoir quel est le bon séjour. Mais on imagine que c'est lorsqu'il est à Rome, et donc on suppose que c'est dans les années 61 à 63. Ça, c'est pour établir aussi quelques correspondances avec d'autres écrits, voir ce qui peut être contemporain. Mais pour le contenu de la lettre, ça ne va pas être vraiment déterminant. Cette lettre est essentiellement connue à travers l'hymne du chapitre 2, une célébration du Christ, Jésus, à travers notamment sa capacité à se vider de lui-même, ce qu'on va appeler la kénose, on va y revenir. Et on peut dire que la lettre aux Philippiens est une sorte d'hymne à l'amour du Christ. Et le jour où vous voulez retrouver un petit peu de joie et d'allant, eh bien, l'épître aux Philippiens est un bon texte pour retrouver aussi le sens de la communion fraternelle. Pour ce qui est de la ville de Philippe, eh bien, c'est là, en 42 avant Jésus-Christ, que Marc-Antoine et Auguste ont battu Brutus et Cassius. Brutus et Cassius, qui sont les assassins de J.C., Jules César. On sait que Paul va y prêcher l'Évangile et y fonder la première église en Europe. On trouve cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, dans les versets 11 à 15. Et un siècle plus tard, un siècle après Paul, Polycarpe, qui est un père de l'Église, va lui rendre hommage et il va parler de la foi solidement enracinée des Philippiens. Donc c'est intéressant parce que la communauté de Philippe est l'exemple d'une communauté qui a réussi en quelque sorte. Paul va y faire un bref séjour. Il va manifestement avoir un certain succès auprès des Juifs et auprès des gentils. Et ensuite, avec un peu d'échange épistolaire, eh bien, il va réussir à souder cette communauté. Mais on va voir quand même dans ce texte qu'il est face à une sorte d'opposition qu'il va devoir gérer. On se rend compte qu'il y a autour de Paul, dans cette ville, une forte présence féminine. Donc pour vous, mesdames, ça peut être aussi un lieu pour mettre un peu de baume à votre cœur blessé parfois. Il y a une position éminente des femmes. On y trouve notamment Lydie, qui est une négociante de pourpre, qui est issue de la ville de Thyatire, et qui a été baptisée avec les siens par Paul, à qui elle a offert sa résidence comme demeure le temps de son séjour. Et dans Philippiens, au chapitre 4, verset 2, c'est-à-dire juste après le texte que nous allons lire, on voit qu'il exhorte Évodie et Syntyche, qui sont des femmes. Évidemment, ce ne sont pas forcément des noms très propices à l'identification du genre, mais Paul mentionne deux femmes. Donc c'est dire qu'il les considère comme sujets. Et il s'adresse directement à elles, ce qui signifie que dans l'esprit de Paul, elles sont dignes de son exhortation. C'est tout l'inverse de Don Juan qui s'adresse au valet d'un tel pour s'adresser à un tel. Il y a une sorte de mépris là. Eh bien non, là il y a une adresse directe, ce qui montre bien la dignité que ces femmes ont aux yeux de Paul. Et donc, c'est aussi un argument en faveur de la non-misogynie de Paul. Alors, pour continuer un peu avec le contexte, si on prend le livre des Actes, donc toujours au chapitre 16, qui raconte le séjour de Paul à Philippe, dans les versets 16 à 40, il y a toute une succession de conversions. On dit que Paul a chassé un esprit d'une esclave diseuse de bonne aventure, et cette esclave va pousser ses maîtres à traîner Paul devant la justice. Et la reconnaissance n'était pas déjà bien en place à l'époque. Donc Paul et Silas vont se retrouver devant le tribunal comme des juifs troublant l'ordre public. Ils vont être battus par des verges, ils vont être emprisonnés, il va y avoir un séisme qui ouvre les portes de la prison. Et là, en magnifique précurseur de l'éthique protestante, il ne s'enfuit pas. Il reste. Il subjugue leurs geôliers qui se convertissent avec leur famille. Donc le geôlier et sa famille deviennent chrétiens. Les magistrats s'excusent d'avoir traité des citoyens romains de cette manière et ils partent vers Thessalonique, la conscience du devoir accompli. Ça pourrait faire évidemment un film à Hollywood. Alors, quand on parcourt maintenant la lettre de Paul aux habitants de Philippe, on se rend compte, qu'il y a un vrai lien d'amitié même d'amour entre Paul et la communauté. Quelques expressions signent cela. Chapitre 1, verset 7. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur. Le verset suivant. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et puis, dans le dernier verset du passage que nous allons lire, c'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, etc. Enfin, demeurer dans le Seigneur, bien-aimé. Voilà. Donc, une véritable affection. Il évoque l'emprisonnement et c'est assez frappant parce qu'il va faire de sa captivité un ressort pour sa mission d'évangélisation. On voit ça au chapitre 1, les versets 12 à 13. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. » Alors, pour faire le lien avec notre vie quotidienne, il y a là deux choses. Tout d'abord, on va avoir le soubassement de la théologie paulinienne de la croix. C'est quand je suis faible que je suis fort. Il va y avoir tout à l'heure un renversement de valeur aussi dans le texte qu'on va étudier. Et puis l'autre aspect, c'est sur la question de la médiatisation. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de médiatisation, on appelle ça l'effet Streisand. Un jour, il y a une rumeur qui a couru sur Barbara Streisand. Et elle a voulu à toute force dénoncer la rumeur, étouffer la rumeur et empêcher les gens de diffuser cette rumeur. Moyennant quoi, elle a amplifié la rumeur et elle lui donnait une caisse de résonance qu'elle n'aurait pas eu autrement. L'effet Streisand, c'est quand on veut lutter contre quelque chose qui nous agace, on l'augmente au lieu de le laisser mourir de sa belle mort. Eh bien là, il y a quelque chose de même nature. Les opposants de Paul, en le traînant devant le tribunal, lui ont donné un prétoire, lui ont donné une audience, lui ont donné une tribune. Et dans une histoire pas si lointaine, au début du XXe siècle, on se souvient que c'est parce qu'il avait été traîné devant les tribunaux qu'Adolf Hitler avait pu faire valoir sa doctrine et faire de la publicité pour Mein Kampf. Donc, c'est aussi un point de vigilance quand on veut lutter contre quelque chose. Ce n'est peut-être pas forcément en le dénonçant à tout prix et en déployant toute l'énergie que nous avons qu'on va pouvoir réduire ce à quoi on s'oppose. Sur le plan politique, par exemple, plus on parle de quelqu'un ou de quelque chose, plus cette personne prend de l'ampleur. C'est vrai dans l'Église aussi. Et il va dire qu'il va devenir une sorte d'exemple pour les autres. C'est-à-dire qu'il est mis en exergue, il va devenir un modèle, et certains vont adhérer à sa cause parce qu'ils se reconnaissent dans la figure de Paul. En fait, il devient martyr. Et les figures de martyrs attirent. C'est une rime riche. Presque. Donc, s'il y a de l'hostilité envers Paul, c'est que Paul a des rivaux. On le voit au verset 15 du chapitre 1. « Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. » Voilà. Donc, il y a de la rivalité. Et puis, Paul va expliquer quelle est la réponse qu'il apporte à cette rivalité. La réponse de Paul, c'est le mépris. Verset 18, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Et c'est quelque chose que l'on trouve aussi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le mépris. Vous voyez, on ne donne pas d'importance exagérée à la force d'opposition. On profite que cette force d'opposition parle d'un sujet qui nous tient à cœur et ça permet d'en faire de la publicité. Et ensuite, on repasse par derrière pour apporter sa propre contribution. Mais il n'y a pas d'attaque frontale. Napoléon, je crois, dont on va bientôt fêter la défaite à Waterloo. Non, c'est vrai. Disait... Quand vous voyez votre ennemi, grosso modo, se prendre les pieds dans le tapis ou engager, enfin, quand on voit son ennemi prendre un mauvais chemin, laissons-le aller sur ce mauvais chemin. Il y a, d'autre part, dans cette lettre, une réflexion tout à fait intéressante sur la mort. C'est une réflexion intéressante sur la temporalité, en fait, que l'on peut mettre en tension avec ce qu'il écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, c'est-à-dire le premier écrit de Paul. En 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 17, Paul parlait de « nous, les vivants, qui serons encore là au retour du Christ ». Dans ses premiers écrits, Paul pense pouvoir être témoin du retour du Christ. C'est cette époque où l'on imagine que ce retour est imminent, et la tradition, la légende urbaine dit que à chaque fois qu'on dit le Notre Père, on pense que c'est la dernière fois qu'on le dit, et le Christ va revenir. Au chapitre 1, dans les versets 20 à 26, Paul envisage la possibilité de mourir. Verset 21, « Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai, je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. » Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Il envisage sa mort. Il envisage que ce qu'on appelle la parousie, le retour du Christ, soit pour plus tard et qu'il n'en soit pas un témoin oculaire. Et vous l'avez entendu, il se demande s'il n'est pas préférable pour lui de mourir, autrement dit de rejoindre le Christ. Eh bien, ce qu'il va développer, c'est qu'il y a une autre manière de rejoindre le Christ, c'est de le rejoindre dans ses souffrances, ce qui est une métaphore pour dire dans son ministère. Les souffrances du Christ, c'est de rejoindre une communauté aussi avec ses problèmes, aussi avec son adversité, et de pouvoir ressusciter avec elle, de pouvoir résoudre le problème. Donc, aller au cœur de la mêlée, aller au cœur de l'enfer, si on pousse au bout de la logique, et de pouvoir restaurer cette situation. Donc, partager la souffrance du Christ pour parvenir à ressusciter des morts. C'est ce qu'il dit au chapitre 3, dans les versets 10 à 11. « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Ensuite, quelques mots sur la situation locale, dont on a tracé quelques esquisses. Au chapitre 2, dans les versets 14 à 16, Paul dit qu'il veut que les Philippiens soient irréprochables, lumineux au milieu d'une génération pervertie. Et il dit qu'il sera ainsi, qu'il n'a pas couru en vain. Donc, c'est l'idée un peu des pharisiens, finalement. Vous savez, les pharisiens, ce sont ceux qui sont séparés. Ce sont ceux qui recherchent une pureté qu'ils ne reconnaissent plus dans la société civile, pour prendre des catégories contemporaines. Donc, ce sont des séparés qui, comme cela, vont tendre un cordon de sécurité entre le pur et l'impur. Dans une certaine mesure, Paul, dont on va entendre là à nouveau qu'il est pharisien, s'inscrit un peu dans cette dialectique. Son souhait, je vous le disais, c'est la communion, la koinonia. La koinonia de l'esprit, on le voit au chapitre 1, au verset 27, et puis au chapitre 2, verset 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Ça laisse entendre qu'il y a des dissensions internes, qu'il y a du clivage. On a déjà parlé de clivage. Il va dire que ce clivage existe même chez ceux qui ont travaillé auprès de lui. Chapitre 4, verset 3. « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Donc, c'est l'exhortation à ce que Ovidie et Syntyche aient une communion de pensée dans le Seigneur. Et Paul va le faire en plaçant au cœur de tout le Christ. Ça va être finalement l'argument de la communion. Se désintéresser de soi pour se fixer au Christ. Une sorte de dépréoccupation de soi. C'est aussi le sens de la kénose. Et il va en parler aussi dans ce chapitre qu'on va voir. Il y a une opposition externe. Il n'y a pas simplement un clivage interne, une opposition externe. On le voit au chapitre 1, les versets 28 à 29. Ce sont des plaintes à propos de l'étrange enseignement des chrétiens qui ne reconnaissent pas les dieux. Ceux qui ne sont pas chrétiens reprochent aux chrétiens de n'enseigner qu'un seul Dieu, de ne pas enseigner les dieux. Et du coup, ils vont faire appel aux autorités locales pour les expulser. Et au chapitre 1, verset 28, il dit, il recommande, « Sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires, c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Donc c'est après l'objet d'une souffrance pour la communauté aussi. Et on va voir dans notre chapitre qu'il y a enfin une troisième catégorie, ce sont les mauvais ouvriers qu'il va appeler les chiens. On va voir ce que peuvent signifier ces chiens. Je finis en vous disant que dans notre chapitre, On va voir un parallélisme avec le chapitre 2, ce fameux hymne aux Philippiens. Et je vous en donne tout de suite quelques éléments. Si vous n'avez pas le chapitre 2 en tête, comme ça, ça vous facilite la compréhension. Au chapitre 2, verset 5, il dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Donc avoir la pensée, les sentiments du Christ. Et au chapitre 3, verset 17 qu'on va étudier, il dit « Imitez-moi ». Et donc en fait, Paul va se mettre dans la position du Christ Jésus. Après avoir développé la figure du Christ comme figure de rassemblement, il va se mettre en parallèle pour devenir lui-même la figure de la communion. On va entendre dans l'épître aux Philippiens, dans l'hymne, que le Christ s'est dépouillé de lui-même. Et Paul va dire qu'il ne tire aucune gloire de ses titres personnels. Il va dire ensuite que Christ a été élevé, et il va dire de lui-même qu'il court vers le haut, vers la vocation céleste. Voilà donc des éléments qui font un parallèle entre le Christ Jésus et Paul, ce qui est assez audacieux quand même. N'importe quel prédicateur le ferait aujourd'hui, on le taxerait d'orgueil et de vanité éventuellement. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Paul va utiliser cette technique pour montrer que ce sont ses adversaires qui font preuve d'orgueil et de suffisance. Nous allons voir cela. Bien, alors, vous avez un texte sous les yeux. Je vous propose, compte tenu du temps que nous avons, qu'on le lise au fur et à mesure. On va prendre verset par verset, on ne va pas faire une lecture globale. Et puis, comme c'est notre dernière séance, on va essayer de s'interrompre un peu plus. Vous allez essayer de moins me laisser parler. On va voir si ça marche. Allez, essayons. Allez. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Alors, tout à l'heure, je vous rappelais qu'un siècle plus tard, on va louer la communauté de Philippe, bien enracinée dans la foi. Et ce qui est étonnant, c'est que nous avons là une lettre très petite, finalement, hein, 4 chapitres. Ce n'est rien à côté de Romains, Corinthiens, Corinthiens. Et au verset 1, il dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses ». Ça peut peut-être laisser entendre que nous n'avons plus qu'une seule lettre parmi une correspondance épistolaire plus importante. Donc il est possible qu'on ait simplement conservé ce passage. Bon, évidemment, certains vont dire que cette lettre est déjà un rafistolage de plusieurs lettres. Et qu'il a besoin de se répéter un peu, oui. La fameuse pédagogie de la répétition, pour que ça rentre. C'est possible. C'est un peu l'idée que lui est patient et qu'on ne l'aura pas à l'usure. Et tenace. C'est un peu comme un parent avec ses adolescents. Il tient bon. Il tient bon. Paul est l'adulte et les Philippiens, les chrétiens, sont les adolescents. Tiens bon, tiens bon. On les aura, les Gallois. L'oipos, c'est ce qui reste finalement. Ça donne un peu la tonalité de l'ensemble de ce passage. C'est l'objectif. Au reste, c'est pas les déchets. C'est finalement, au bout du compte, c'est ce qui résiste à tout. Bon, alors le verset 2 est quand même le plus intéressant. Donc, prenez garde, c'est la traduction du verbe blepo, qui est surtout regarder, scruter. C'est pas forcément prenez garde comme méfiez-vous. Bien sûr que ça peut être une des conséquences, mais c'est plutôt observer, scruter. Donc, les chiens, les mauvais ouvriers et ce qui est traduit par les faux circoncis. Alors, on va commencer par l'histoire des chiens. Pour comprendre ce que sont ces chiens, moi je propose de retourner au texte grec. Le texte grec, donc le terme chien, c'est kuon, au génitif kunos. Kunos. Et c'est intéressant parce que c'est le mot qui donne cynique. Et non seulement c'est le mot qui donne cynique, mais ce dont il va être question fait vraiment penser à la philosophie cynique. C'est une école philosophique dont les figures essentielles sont Diogène et Antisthène. Et on connaît le cynisme aujourd'hui, hein. On parle de quelqu'un avec un comportement cynique. Monterland, par exemple, parle d'un comportement cynique au sujet d'un chien. Vous voyez, c'est assez amusant. Il dit, dans son bestiaire, « Des chiens naviguaient là-dedans comme chez eux, un roquet, tout cynique, ce qui est assez naturel, allait faire ses besoins sous leur nez. » Eh bien, c'est exactement la description du comportement cynique. Parce que, pour les cyniques, la vertu consiste à mépriser les conventions, notamment les conventions sociales. Le comportement cynique consiste à braver l'opinion publique. Et tout cela dans le but de revenir à l'état de nature. Et on dit souvent, quand on veut caricaturer les cyniques, qu'ils urinaient comme les chiens. Avec d'autres pratiques toutes plus exhibitionnistes les unes que les autres, dont je vous ferai grâce. Et quelqu'un comme Diogène disait « Je n'ai droit de citer nulle part ». Un autre disait que sa patrie, c'était le mépris de l'opinion des autres. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est aussi anticonformiste que possible, qui est contre la morale, qui est à la fois contre la réglementation et même contre la régulation. C'est-à-dire qu'il est contre la loi et même contre le principe qu'on puisse pour soi avoir une loi. Et pour le dire très chastement, cela conduisait à des comportements impudents. Donc, je pense que lorsque Paul parle des chiens, on traduit par chien, mais on pourrait peut-être parler des cyniques. C'est une école philosophique qu'il connaissait et probablement à laquelle il est confronté. Il y a ensuite les mauvais ouvriers. Pourquoi c'est traduit par chien ? Parce que, d'abord, c'est une traduction possible. Donc, non, mais je veux dire, c'est pas non plus une faute de traduction au sens où on se serait carrément trompé de champ sémantique. Je pense que le terme cynique est un terme philosophique peu connu, en fait. Et si on s'adresse à un public large, on traduit plus volontiers au sens littéral du terme qu'au sens figuré. De nos jours, cynique, ça ne fait pas référence à une école philosophique. Ça fait référence à quelqu'un qui manie un peu l'ironie, en fait. Ouais. Et ça va beaucoup plus loin dans l'Antiquité. C'est vraiment une posture. C'est pas très loin de la posture libertarienne, d'ailleurs. Mais ça, c'est aussi une tradition qui est très peu connue. Donc, peut-être pour éviter des malentendus, on traduit plus littéralement, en fait. « Ensuite, donc, les mauvais ouvriers, les cacus ergatas. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Ce sont ceux qui, comme le disait Paul, peuvent avoir délibérément le souci de mal faire ou qui, au contraire, suivent un peu la tendance. Bon, toujours est-il que ça n'aboutit pas à la bonne réalisation. Et puis, il y a les faux circoncis. Et au verset 3, juste après, on va parler des circoncis. Alors, on regarde juste un petit peu le grec pour voir comment ça se joue, ces deux termes. Au verset 2, on a katatomène. Ça, c'est les faux circoncis. Et au verset 3, c'est pas katatomène, c'est péritomène. Donc la différence, elle se joue entre le kata et le péri. Péri, c'est bien. Kata, c'est pas bien. C'est la kata avec kata, comme dit Nicole. Kata, ça peut être... ça peut être le long d'eux, ça peut être... ça peut être éventuellement l'opposition. Péri, c'est plutôt autour. Et effectivement, une circoncision autour, au niveau du geste, c'est plus cohérent. Une circoncision kata, on sent que c'est pas vraiment le bon geste. Et en fait, on pourrait parler au sujet des premiers, des katatomènes, qu'ils sont en fait qu'ils sont mutilés, alors que les autres vont être circoncis. C'est-à-dire que dans un cas, il y a un coup de lame, et dans l'autre, il y a un geste rituel qui a un sens différent, et le sens là qui est évoqué, c'est d'ailleurs la rotation, péri, c'est autour. Et donc, on comprend que pour Paul, il va faire la distinction entre ceux qui s'en tiennent à l'aspect formel, et du coup se donnent un petit coup de lame pour se donner un titre de gloire, alors que dans l'autre cas, le geste rituel s'accomplit avec du sens. Et ce n'est pas simplement un rituel suivi à la lettre, c'est aussi un rite avec un esprit qui donne une nouvelle identité aux personnes. Est-ce que ça, c'est clair pour l'instant ? Parce qu'au verset 3, il dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Donc vous voyez, ce n'est pas le coup de lame qui fait le croyant, c'est l'Esprit dans lequel les choses sont vécues. Donc on comprend que pour Paul, ça va être l'occasion de dire ça ne se joue pas entre les circoncis et les incirconcis. Ça se joue entre ceux qui vivent selon l'Esprit et ceux qui ne vivent pas selon l'Esprit. Donc, ce n'est pas le coup de lame qui va faire la différence, c'est l'esprit dans lequel les choses sont vécues. Donc, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, ce n'est pas dans la matérialité que nous nous distinguons. Notez au passage que dans cette version, il est écrit Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez une Bible et si ça propose autre chose. Dans la Darby, peut-être que c'est autre chose.
Sur la Tom, c'est
Jésus-Christ. Oui. Et Darby, ça doit être Christ Jésus, je pense. Au verset 3. Voilà. Parce que l'ordre, c'est Christ Jésus, en fait. C'est comme si on disait « Pasteur Woody ». Oui, on donne la fonction et ensuite le nom qui va avec. Ce qui permet de rappeler que Christ est bien une fonction et que dans la perspective de Paul, Christ ne correspond pas à la nature de Jésus, mais à sa fonction. C'est un petit peu différent, notamment quand on s'intéresse à la question de la divinité de Jésus. Si on dit que Jésus est divin, ce n'est pas parce qu'il aurait en lui des parcelles de Dieu, ou qu'il aurait en lui des molécules divines, ou qu'il aurait en lui quelque chose de divin, c'est qu'il incarne la manière d'être divine. C'est qu'il incarne cette fonction divine qui fait que l'homme devient vraiment humain, pour reprendre les catégories de Théodore Monod. Et donc, la divinisation de l'homme, qui est aussi quelque chose de très oriental, dans l'orthodoxie russe, on a ça, la divinisation de l'homme, c'est le fait qu'il devienne christique, en fait. Donc, c'est quand il est bien dans sa vocation que l'homme est pleinement lui-même. Et Paul n'imagine pas que Dieu soit une sorte de substance, pas même un être, qui soit divisible en petites parties qu'on posséderait et qu'on appellerait l'âme, par exemple. L'âme, ce n'est pas un petit bout de Dieu qui se promènerait en nous. Une sorte de tumeur à l'envers, quoi. Donc, nous ne mettons point notre confiance en la chair. Il ne faut pas comprendre la chair simplement comme le corps, avec sous-jacent la question de la sexualité, etc. La chair, c'est bien la question du matériel. Hein, c'est bien ce qui est physique. Mais la foi peut être physique, par exemple, à travers les œuvres. Eh bien, ce que dit Paul, c'est ce ne sont pas les œuvres qui font la foi, c'est la foi qui fait les œuvres. Verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Sous-entendu, si c'est une question de chair, moi j'ai tout ce qu'il faut, ou plus exactement, je n'ai plus ce qu'il faut. Si c'est une question de prêt plus en moins, pour moi ça a marché. Je serais prêt à vous montrer que, voilà, j'avais pas à rougir. Mais il va essayer de montrer que ce n'est vraiment pas cela qui est déterminant. Moyennant quoi, il va commencer un argument ad maiorem, c'est-à-dire qu'il peut déballer plus que la partie adverse. Il a plus d'arguments à faire valoir. Sur leur terrain de la matérialité, sur leur terrain des titres de gloire, il a plus à fournir. Il a tout ce qu'il faut là où il faut, et il a tout ce qu'il ne faut pas là où il faut. Voilà. Vous mettez là où vous voulez. Et alors, quels sont ces titres de noblesse? Verset 5. « Moi, circoncis le huitième jour. » Donc ça signifie, dès le départ, j'ai été au bénéfice des prescriptions légales. Présentation au temple, probablement. Sacrifice, peut-être même pour le rachat du premier-né. Mais comme il ne s'est pas précisé, il est possible qu'il n'ait pas le premier-né. Sinon, il aurait pu le rajouter. Jésus, lui, est premier-né, et du coup, il est racheté quand on va au temple. Il y a les deux colombes qui sont tuées pour racheter le premier-né. Donc, baptisé le huitième jour, circoncis le huitième jour. Voilà. Génération d'Israël. Hein, parce que la race, c'est Genus, donc c'est mieux peut-être de traduire par génération. On entend le terme guinomai, advenir, engendrer. Donc, Israël, ensuite de la tribu de Benjamin, donc ça se resserre. On pourrait presque attendre le clan, mais non, là, il va à nouveau universaliser. Hébreu, né d'Hébreu. On pourrait quasiment entendre une expression populaire de nos jeunes, c'est « hébreu de chez hébreu ». C'est pour dire « vraiment hébreu ». Comme on disait « cheminot, fils de cheminot », quoi. Vraiment cheminot. C'est très étonnant, cette expression, à la fois parce que le terme grec est celui-là, « hébraïos ». Donc vous voyez, on a juste translittéré le terme hébreu « ivri ». Et quand on se souvient de ce que signifie hébreu, c'est assez intéressant, c'est un peu comme un programme. Parce que hébreu, donc la racine abar en hébreu, c'est passer, traverser. Et donc, être hébreu, c'est être traversant, être passeur. Et c'est ce que Paul s'attache à montrer. Il traverse une histoire, il traverse une tradition sans que les choses soient figées. Et il va aider la communauté de Philippe à aller d'un point à un autre. Il les aide à bouger. Il bouge les lignes. Il bouge les lignes du judaïsme. Il fait passer le judaïsme d'une loi rituelle à une loi éthique. Et ça, c'est le caractère nomade du peuple hébreu. Maurice Blanchot, dans son Entretien infini, lorsqu'il s'interrogeait sur l'être hébreu, distinguait l'hébreu du païen. L'hébreu, c'est donc celui qui traverse, celui qui passe. Le païen, c'est celui qui se fiche en terre. C'est la certitude du sol. C'est celui qui s'enracine. Et vous savez que dans les textes bibliques, il y a le conflit entre les sédentaires et les nomades, entre les cueilleurs et les chasseurs, entre ceux qui veulent figer Dieu en un lieu et ceux qui considèrent que Dieu est toujours au-delà, que Dieu échappe en permanence. Et Jésus reprendra cela, notamment au moment de la transfiguration, quand il y a cette vision de Jésus transfiguré, entouré de Moïse et d'Élie. Pierre dit comme c'est bien. Et si nous plantions nos tentes, sous-entendu, et si nous figions le temps, si on en restait là ? Et on s'en va. Parce que ce serait sacrilège de figer le temps, de figer la vie. Le vrai blasphème serait là. C'est de vouloir arrêter le cours de l'existence. Si on le disait avec la théologie du process, ce serait cesser ce flux permanent de nouveautés possibles dont on dit qu'il a son origine en Dieu. Donc, avec Hébreu de chez Hébreu, on a une universalisation. Nous sommes tous passeurs. Et puis ensuite, il va reparticulariser quant à la loi pharisien. Donc, on se rappelle qu'il est de cette école des pharisiens et que c'est au nom de ce pharisaïsme, d'ailleurs, qu'il avait persécuté les premiers chrétiens, qu'il ne s'était pas gêné au moment de la lapidation de Pierre, par exemple, et sur son chemin de conversion en direction de Damas, la question que lui pose le Christ, c'est « Pourquoi me persécutes-tu ?» Et la question des persécutions va revenir. On va voir ça. Par rapport à ces éléments, des questions, des remarques ?
La lapidation de Pierre,
postérieure à ce texte ? Est-ce que Pierre est... Le problème, c'est qu'on a du mal à dater ce texte. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse assurée. Est-ce que le martyre de Pierre est concomitant ? Parce qu'a priori, on pense que Paul est à Rome. Donc, c'est là où se fait martyriser Pierre. Il est possible que ce soit dans le même moment, mais...
Il a pu assister.
Ou il a pu l'entendre parler. Ceci étant, il ne va pas y faire référence ni explicitement ni implicitement. Par contre, de ce qui est de la persécution de l'Église, il en parle au verset suivant. Selon le zèle, persécuteur de l'Église. Alors, selon le zèle, zélos, le zèle, c'est aussi ce qui donne les zélateurs de la loi, les zélotes. Les zélotes qui vont déployer beaucoup d'audace, de zèle, pour essayer de bouter l'ennemi romain hors du territoire sacré. Et on sait que la révolte des zélotes finira dans un bain de sang et que Massada va tomber dans les conditions que vous savez. En 70, de notre ère, il y a le sac de Jérusalem, et puis sur l'arc de Titus à Rome, on voit les objets du culte qui sont transférés de Jérusalem jusqu'à Rome. C'est-à-dire qu'on transporte les dieux, en l'occurrence on n'a qu'un, et l'arche d'alliance, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Donc il y a notamment le candélabre. Persécuteur de l'Église, donc on comprend, mais il faut s'arrêter aussi sur ce terme. Parce que c'est le verbe dioko qui va être utilisé tout à l'heure pour courir. Et en fait, dioko, c'est à la fois persécuter et courir. C'est presser, c'est hâter, c'est ne pas laisser tranquille. Et Paul va faire un jeu de transformation en passant de persécuter à courir, à hâter le pas, à presser. Ça, c'est la conversion aussi. C'est ça la métanoïa. C'est quand on donne un nouveau sens à notre nature. Au fond, Paul a une nature de persécuteur. Paul a une nature d'empêcheur de tourner en rond, de titilleur. Il faut que ça mascagne, comme on dirait. Mais quel va être l'objet de notre ardeur ? Et quel va être le chemin qu'on lui fait parcourir ? Eh bien, Paul va passer de cette ardeur qui blesse des personnes à une ardeur qui fait faire du chemin, qui accomplit une sorte de course dont il envisage de remporter le prix. C'est ce qu'on appelle la sublimation, pour le dire dans les termes psychanalytiques, quoi. On change d'objet du désir. On passe de la haine à l'amour. Il y a une métamorphose. Paul continue. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, sans reproche, il est devenu et la justice de la loi. C'est pas simplement la loi, c'est aussi la notion de la justice, la dikaiosune. Vous voyez, au lieu d'avoir une application à la lettre de la loi, il va penser la loi par rapport à la justice. Et on sait que pour Paul, par-dessus cela, il y a la question de l'amour. Donc ça signifie qu'il ne va pas se contenter de la loi rituelle, c'est-à-dire la loi mécanique, la loi qui se contente d'appliquer les décrets. Il va plutôt penser la loi par rapport au but, la finalité, et donc faire en sorte de créer un chemin qui nous permette d'atteindre ce but. Je prends un exemple très concret avec aujourd'hui. Il y a un an, on parlait de la question de la justice restaurative. Jusqu'à présent, la dimension pénale consistait à sanctionner une personne pour une faute qu'elle avait commise. Mais en faisant cela, on ne permettait pas à la personne de changer et de cesser d'être un délinquant ou un criminel. À la limite même, on pouvait dire qu'on rentrait délinquant en prison et on en sortait potentiellement criminel, parce qu'on avait appris toutes les techniques. Je crois que c'est Pierre Botton qui raconte son séjour en prison et il dit à quel point il est devenu capable d'être le parfait gangster. Voilà, c'est une haute école du crime, la prison. Et donc, quel est le but de la justice ? Est-ce que c'est de condamner les coupables ? Ou est-ce que c'est de transformer les coupables en citoyens responsables ? Bon, certainement, il y a une première étape de la justice qui est de maintenir et de préserver l'ordre dans la cité. Mais pour les individus, il y a quand même cette idée que la vraie justice, c'est de permettre aux personnes de progresser, de changer, et de pouvoir reprendre une place en tant que citoyen. C'est un peu l'épisode de la parabole du père qui a deux fils. Le cadet qui demande sa part d'héritage, qui va mener une vie de patachon. et qui se retrouve avec rien, qui retourne vers son père. On pourrait se dire, c'est ce que pense le fils aîné, eh ben, il n'a que ce qu'il mérite, bien fait pour sa pomme, voilà. Il a eu son capital, il l'a dépensé, tant pis pour lui, qu'il se débrouille. Du point de vue du père, il a en face de lui, non pas un justiciable, mais son fils. Et en tant que père, il se dit, que vais-je pouvoir faire pour le restaurer, pour qu'il puisse redevenir un homme? C'est un peu la question que se posait Schweitzer. Comment peut-on restaurer l'humanité de quelqu'un qui n'est plus que de la boue? Eh bien, il va lui prodiguer de l'amour, c'est-à-dire une surabondance de biens, là où une justice mécanique aurait simplement considéré qu'il avait eu ce qu'il méritait et maintenant qu'il se débrouille. Et donc, ça sera au fils aîné de passer de l'état d'enfant, où la justice, c'est on est payé pour ce qu'on fait, à une justice d'amour, où on s'efforce en permanence de prodiguer à quelqu'un ce dont il a besoin pour s'épanouir. Et donc ici, il y a la question de la métamorphose. C'est le verset 7 qui le dit. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Il y a une subversion. L'évangile est subversif. Il y a une relativisation à travers le Christ. Alors, vous pouvez le dire comme vous voulez. Changement de paradigme, changement d'unité, changement de repère, changement de regard sur la vie. Voyez comme Paul est hébreu. Il ne théorise pas en utilisant un mot comme subversion. Il raconte ce qui se passe. Le gain devient une perte. C'est celui qui voulait sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi, celui-là la gagnera. On raconte ce qui se passe. On ne théorise pas, on raconte ce qui se passe. C'est pour ça que Paul est quand même plus compréhensible que ce qu'on imagine. Plus compréhensible que parfois Paul Ricoeur. Il théorise beaucoup moins que Paul Ricoeur. Et ça, l'Ancien Testament raconte plus qu'il ne théorise, et c'est pour cela que l'Ancien Testament est quand même très appréciable, même pour ceux qui n'ont pas une grande capacité d'abstraction. Donc, pour Paul, il y a ici une métamorphose, c'est ce que je vous disais. Il était persécuteur, il va devenir coureur, en quelque sorte. Et il y a un changement de perspective, ce qui pouvait apparaître comme un gain, eh bien, ça devient une perte. Je crois que c'est important dans l'éducation parce que c'est quand on a le bon regard sur les choses et sur les personnes qu'on est en capacité de bien mener sa vie. Et il me semble que c'est la raison pour laquelle les élites reproduisent les élites. C'est-à-dire que des parents confrontés à l'éducation de leurs enfants doivent se demander ce qui est vraiment prioritaire et déterminant. Et les élites savent ce qui est prioritaire et déterminant. Et les élites, quand ils pensent un peu à ce qu'est la vie, ils savent que ce n'est pas le nombre de tablettes mobiles, de consoles de jeux, qui fait que l'enfant est heureux. C'est la multiplication des stimulations et des découvertes qui va en faire quelqu'un de riche. Quoi. On sait bien que ce sont les élites qui vont insister pour maintenir le latin et le grec, qui semblent tout à fait inutiles. À quoi bon faire du latin et du grec? Sinon à structurer la pensée. Mais peut-être que structurer la pensée, c'est bien plus important que d'acquérir des savoirs immédiatement utilisables dans une vie pratique. Peut-être faut-il perdre son temps sur des choses essentielles pour gagner sa vie que d'avoir l'impression de gagner son temps dans une sorte d'effervescence de l'activisme qui nous fait perdre finalement une perspective à notre vie. Je dis ça pour moi parce que publicité gratuite pour ceux qui m'écoutent, Les Anges de la Réalité, c'est une émission de télé qui grignote le cerveau des enfants. Parce que ça réduit la capacité d'imagination, en fait. Mais de façon générale, vous voyez, il y a deux façons d'envisager un spectacle. Il y a le spectacle qui montre tout et le spectacle qui fait penser, qui fait imaginer. Oui. Oui. Vous dites, je les mets où ?
Les élites.
Oui. Ils sont où ? À Paris, par exemple ? Bah, je ne vais pas faire une sociologie des élites, mais grosso modo. Ah, mais je pense qu'il y a des élites qui ne sont pas élites en ce qu'elles ne réfléchissent pas à ce qui les a. Les parvenus, par exemple. Les parvenus ne sont pas des élites. En fait, c'est ce qui fait toute la différence entre l'aristocratie et la bourgeoisie. L'aristocratie, au sens de Nicolas Berdiaev. Pas au sens de je ne sais quelle lecture plus que je ne qualifierai pas. L'aristocratie, c'est celle qui a des valeurs fondées sur une dimension non visible de la vie, une dimension symbolique. La bourgeoisie, c'est celle qui a comme registre de valeurs justement la matérialité, voire tout ce qui favorise le m'as-tu vu. Après, je peux être beaucoup plus précis. Et on peut regarder les voitures, les automobiles à Paris. Eh bien, je constate qu'à Passy, il y a une surreprésentation de Jaguar. De Jaguar. Oui, de Jaguar. Oui, oui. Sortez à la station de métro Passy, vous verrez plus de Jaguar que partout ailleurs à Paris. Et pas chez le concessionnaire. On trouve aussi chez beaucoup de parvenus des 4x4 pour se promener à Paris. Voilà. Maintenant, je peux vous parler de non-parvenus qui ne correspondent pas à la bourgeoisie, qui ne correspondent pas non plus à la haute société protestante. Je ne vous en citerai pas un, mais qui est notamment à l'oratoire, formé aux lettres classiques, qui a franchement bien réussi sa vie et qui a une petite voiture et une montre en plastique. Parce que c'est pas là que ça se joue, en fait. Vous savez, la fameuse Rolex à 50 ans, ça, c'est l'erreur. Ça, c'est le leurre pour tromper son monde. Quand on pense que c'est ça l'objectif, eh bien, on passe à côté de sa vie.
L'élite, elle est partout, dans n'importe quelle classe sociale.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire,
ah oui, l'élitisme ne se mesure pas aux revenus financiers, mais à une passion pour l'ensemble des dimensions de la vie. Il y a je prends une autre catégorie, je dirais qu'il y a les poètes de la vie et les utilisateurs de la vie. Et donc, que font les textes bibliques ? C'est déguiser la sensibilité du lecteur. Eh bien, la sensibilité au réel, c'est ce qui nous rend capables de pouvoir susciter chez notre interlocuteur, chez nos enfants, nos proches, autre chose que le simple goût pour l'accumulation des biens. L'émotion, par exemple. L'émotion, c'est bien ce qui traduit le fait qu'on se rend compte qu'il y a plus à vivre que ce qui est donné à voir ou à apprécier. La grâce, par exemple. Comment on la repère, la grâce ? Il y a au moins deux pédagogies, mais qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. La grâce se repère par l'observation de ce qui serait l'opposé de la grâce, peut-être la barbarie ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous voyez, on peut repérer un geste de grâce au milieu d'un torrent de barbarie, parce que ça va être contrasté. Ou au contraire, il peut y avoir une pédagogie positive qui va consister à relever quelque chose de positif. Je continue avec les relations interpersonnelles. Je passe de l'autre côté, les personnes qui vieillissent. Certaines vont vraiment émaner de grâce. Il y a une grâce qui émane de ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont chargées d'une épaisseur d'expérience. Parce que elles ne se contentent pas de subir le rythme des journées. C'est qu'elles vivent cela avec du sens. Je prends un exemple. Une grand-mère peut, chaque dimanche, organiser le repas familial. On peut être dans un ritualisme qui n'a aucun sens. Sinon, le fait que j'ai fait mon devoir de grand-mère. Et puis, il y a la grand-mère qui va accomplir le même rituel avec le désir de faire plaisir à la famille qui l'a réunie. Et donc là, il y a du sens. Et là, il y a en fait de la grâce qui va émaner de son geste. Parce qu'elle n'est pas enfermée dans une reproduction stérile. Elle reproduit un geste, mais à chaque fois avec de l'innovation. Et c'est dans ce caractère innovant qu'il y a de la grâce. Parce que ce qui se passe est un acte unique, créé spécialement pour ce moment-là, pour ces personnes-là, qui ne sont plus les mêmes que la semaine précédente. La grâce est personnaliste. Elle tient compte de l'individu en mouvement. On peut être persécuteur de chrétiens et ne plus l'être. Et là, il y a quelque chose de la grâce. Quand on arrive à repérer cette dialectique entre le temps et la durée, entre ce qui est permanent et les moments de rupture. Et ces moments de rupture, ce sont des kairoi, des temps de grâce.
La résilience ne fait pas partie aussi de cette métamorphose.
Oui, la résilience qui est donc ce concept élaboré il y a peut-être une quinzaine d'années, notamment par l'éthologue Boris Cyrulnik. Finalement dit que nous avons une capacité en nous à pouvoir reprendre forme quand on a été défiguré. La résilience, c'est la capacité à retrouver une forme en mécanique et donc une forme humaine dans ce qui nous concerne, avec la nécessité aussi d'intervention extérieure. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la grâce inconditionnelle, c'est que quel que soit le degré de défiguration qui est le tien, il est possible que tu reprennes forme humaine. Bon, nul n'est condamné à être humilié, définitivement. On va parler de l'humilité un peu après.
La résilience est un terme scientifique qui est
philosophique.
Oui, là, c'est une philosophie. J'ai bien compris.
Oui, c'est un terme mécanique au départ.
C'est
Ah oui, qui a été repris il y a une quinzaine d'années.
En philosophie.
Voilà. Enfin, pas tant en philosophie qu'en médecine, oui. Oui, ça. Ouais. Ensuite, le verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, du Christ Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc, ça rejoint cette subversion dont je vous parlais. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose en termes de philosophie, notamment de philosophie politique ? Cette histoire de renoncer, il y a un renoncement, et dans le renoncement, je gagne quelque chose. Vous avez appris ça au lycée ? Vous étiez en première, peut-être. Je trouve que vous l'avez même eu au bac français. C'est un protestant qui a écrit là-dessus. Protestant connu. Qui a vécu notamment dans la cité de Calvin. Je suis. Jean-Jacques Rousseau, donc. C'est ce qu'il dit dans le contrat social. Le contrat social, pour Jean-Jacques Rousseau, c'est de renoncer à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile. Ne soupirez pas, c'est super important, Francine. Ah, on peut le contraire, beaucoup le font d'ailleurs. On renonce à la liberté civile pour obtenir la liberté naturelle. Bien sûr que ça se discute. Enfin, certains ne discutent pas, certains le font. La liberté naturelle, c'est la toute-puissance de sa liberté, en fait. C'est la liberté qui fait abstraction de l'autre. La liberté naturelle, c'est mon désir tout-puissant. Au fond, rien ne doit faire obstacle à ce que je veux. Dans le meilleur des cas, l'autre est un instrument qui me rend service. Ça, c'est l'usage civil, ma brave dame. C'est pas la liberté naturelle, ça. Ce que dit... Bah oui, c'est ça. Chaos pour les autres. Parce que comme c'est moi le plus fort, je l'emporte. Et oui. C'est-à-dire que l'homme renonce à une liberté totale, c'est-à-dire il renonce à son intérêt particulier, pour obtenir quelque chose de plus grand qui est l'intérêt général. Qui est la liberté conventionnelle, pour reprendre des termes plus proches de Rousseau. Et pourquoi cette liberté conventionnelle est préférable ? Eh bien, c'est que pragmatiquement, elle va durer. Pragmatiquement, elle est préférable parce qu'elle s'appuie sur un intérêt général, et donc il y aura a priori moins d'hostilité. Le problème, c'est que dans une société réelle, tout le monde n'est pas favorable à l'intérêt général. Certains continuent à faire valoir leur liberté naturelle. Et donc ce sont les actes d'incivilité dans le meilleur des cas, voire des crimes dans d'autres cas. Je ne parle pas des meurtres qui seraient dus à des psychotiques, etc. Mais il peut y avoir effectivement un dérèglement, c'est déjà un peu de l'ordre du trouble psychique, mais il peut y avoir en tous les cas une compréhension de la société qui n'est pas du tout la même que celle que, a priori, je pense, nous partageons. La société est finalement une communauté qui permet l'épanouissement de chacun sans que ça se fasse sur le dos de quiconque. Ouais, un peu la nature du contrat. Pour certains, la communauté, c'est vraiment le pis-aller, c'est-à-dire qu'ils tombent dedans et ils vont s'en servir pour s'en extraire. Et la communauté, ça devient peut-être le lieu ressource dans lequel on puisse pour se satisfaire. Donc, il y a dans ce renoncement à tout l'idée de la kénose. La kénose, c'est le terme technique pour dire se vider. La kénose, c'est se vider. Et dans l'hymne du chapitre 2 de Philippiens, on dit que Jésus s'est vidé de lui-même. Voilà. Souvent, c'est traduit par « il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix ». Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et s'est trouvé dans la situation d'un homme. On renonce aux valeurs secondaires pour obtenir ce qui est premier. Et donc, on a là, en fait, l'humilité, la véritable humilité, qui consiste à se débarrasser de toutes ces valeurs relatives, secondaires, qui encombrent notre vie et qui nous empêchent de nous remplir de ce qui est vraiment essentiel. Alors ça suppose quelque chose, ça suppose de discerner ce qui est ultime et ce qui est relatif, ce qui a un caractère absolu et ce qui a un caractère transitoire. Alors là, je vous pose de façon rhétorique la question, et pour vous, qu'est-ce qui est ultime ? Avec juste ce qu'il faut de silence pour que vous y réfléchissiez. Toute une vie, éventuellement, mais tardez pas trop, parce qu'à un moment donné, faut pas être pétri de remords en disant « Ah, je me suis trompé, quoi. » Oui, oui. Autant en profiter.
Si on s'est trompé,
oui, bien sûr. Mais autant ne pas avoir de regrets d'avoir attendu trop longtemps, disons. Mais de toute façon, les textes bibliques montrent que le caractère ultime est toujours en devenir. C'est-à-dire que le caractère ultime est toujours repoussé. On découvre toujours un nouvel ultime. Et donc, il ne faut pas s'effrayer si au cours de notre vie, on change d'objectif, on change de perspective. Ce n'est pas qu'on se serait trompé au préalable, c'est qu'en avançant, l'horizon avance aussi, en fait. Et on n'a jamais que la possibilité de se référer à un horizon, à notre perspective, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous voulez espérer d'un ultime métaphysique plus, pour quelqu'un qui a toujours faim, quoi. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas suffisamment nourri. Et c'est un peu comme la pyramide de Maslow. Il y a quand même des besoins élémentaires, des besoins fondamentaux qui doivent être assumés pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc, peut-être que dans un premier temps, le caractère ultime d'une vie, c'est de pouvoir se protéger de la malnutrition ou trouver des solutions pour régler ses problèmes d'hygiène parce qu'on est dans un coin du monde où ces choses ne sont pas réglées. Voilà. Et après, on peut peut-être s'interroger sur les questions climatiques. Mais pour certains, les questions climatiques sont quand même des questions de luxe. Mais pourtant, on peut dire qu'elles sont essentielles. Mais pour savoir l'impact de la pollution sur le climat, comprenez qu'il faut en être passé par une bonne connaissance technologique du monde. C'est-à-dire que pour bénéficier, c'était vous, Jean-Claude, qui nous rendiez attentifs aux carottes qui avaient été faites dans les pôles pour voir l'impact de l'activité humaine sur la glace et donc sur l'atmosphère, en fait. Pour réaliser cela, il faut quand même avoir bien avancé en termes technologiques. Et ce qui est aussi un paradoxe, c'est qu'il faut avoir bien pollué pour pouvoir se rendre compte qu'on pollue, quoi, aussi. Ouais. Il n'y a pas que l'homme. Non, non, bien sûr. Avant que l'homme fût, il y avait déjà la pollution. Bien sûr. Le verset 9. Être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc là, c'est la justification par la foi. Ce qui est intéressant, c'est le premier verbe, être trouvé. Eureka, c'est actif. Et là, eureto, c'est passif. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est être passif. On est au bénéfice de la grâce. Alors, on peut être agent de grâce. Mais finalement, la grâce s'identifie parce que nous la recevons. On peut être passeur de grâce, mais La grâce, c'est ce qui fait de nous quelqu'un en réception. Et ça, ça s'appuie sur la question de l'humilité, parce qu'il faut être mendiant. Il y a une scène intéressante dans le Don Juan. Donc Don Juan, cet homme enfermé dans sa superbe, orgueilleux possible. Qu'est-ce qui va le bouger un peu ? C'est sa rencontre avec un mendiant, dans un bois, là. Je me souviens plus le détail de la scène, mais grosso modo, Don Juan arrive et il veut corrompre le mendiant, qui manque de tout. Hein, lui donnant de l'argent, il veut lui faire quelque chose qui n'est pas très moral. Et le mendiant refuse. Et ça bouge Don Juan qui veut quand même lui donner la pièce, parce qu'il y a une reconnaissance d'un caractère moral qui l'intéresse. Et c'est parce que le mendiant est dans la posture de la mendicité, de l'humilité, autrement dit, parce que l'humble ne peut plus être humilié, que l'orgueilleux n'a plus de prise sur lui, et que du coup, il est susceptible de bouger. Il y a vraiment de la transcendance dans cette rencontre-là. Et la transcendance, elle est dans l'altérité radicale. Là, je vous ai écrasé avec plein de mots en même temps. Je reboucle en vous en parlant de la justification par la foi. Comme ça, on aura le summum. Justification par la foi. Il ne faut pas se dire que la justification, c'est être reconnu digne selon les critères du monde. Justement, Paul va opposer la justification à la question des apparences mondaines. Il dit, c'est pas selon la loi, c'est selon la justice en la foi. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est lorsqu'on a repéré l'ultime et qu'on est complètement saisi par cet ultime-là. La foi, c'est quand on a repéré un absolu et qu'on est complètement dépendant de cet absolu. C'est ce sentiment de dépendance absolue à l'égard de ce que nous appelons Dieu. Et on tire notre existence, non pas de nos réussites personnelles, non pas de lois humaines qui sont toujours transitoires, il y a toujours des décrets, des amendements, et on revient toujours. Non, c'est quand on arrive à toucher du doigt quelque chose qui est de la vraie nature de l'humanité et qu'on s'y consacre. Donc un bien absolu, c'est peut-être le soin que l'on va offrir gracieusement à quelqu'un pour lui permettre d'être un peu plus lui-même. Et on n'en retirera rien d'autre que la reconnaissance du beau geste accompli. Voilà. La fameuse bonne action ou le bon tour des louveteaux. Et donc, la foi est suscitée en moi. Et donc, c'est là qu'elle s'oppose aux œuvres. Les œuvres, c'est finalement quelque chose qui est de l'ordre de ma création. Et là, on n'est pas dans l'ordre de ma création, puisque je reçois, je suis au bénéfice d'eux. Le verset suivant, on est donc dans la communion avec la mort et la résurrection. Donc, c'est la dynamique que je disais tout à l'heure. Et le verset 11, c'est « Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Et c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution dans la compréhension de Paul. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, je vous le disais, il pense qu'il va mourir après avoir vu le Christ. Et là, en fait, il se dit « Non, la mort et la résurrection, ça se joue avant le retour du Christ. » Et la résurrection, elle concerne plus simplement la mort physique, elle concerne la mort à une représentation de la vie qui est fausse. C'est-à-dire que je meurs à mes illusions. Je meurs à mes fausses certitudes. Je casse mes idoles. Et c'est ça la théologie de la croix chez Paul. La croix met à mort de fausses images de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant meurt sur la croix, par exemple. Et le Dieu véritable ressuscite à Pâques, les disciples ont une compréhension renouvelée de Dieu et de la foi. Eh bien, Paul a vécu cette mort et cette résurrection. Il est mort sur son chemin de Damas, et il a été ressuscité au contact des premiers chrétiens qui lui font tomber les écailles des yeux. Il peut porter un regard nouveau sur la vie, découvrir qu'il s'était trompé jusque-là, changer de vie, se réorienter, s'attacher à un nouvel ultime, découvrir un nouveau caractère absolu à la vie et y consacrer toute son existence. Ici, la résurrection, c'est un apax. C'est un mot qu'on n'en trouve pas ailleurs. Ce n'est pas simplement anastasis, c'est exanastasis. Donc c'est la résurrection avec un hors d'eux. C'est comme si on voulait redoubler le caractère transformant de cette aventure. Ex anastasis. Non seulement on est remis debout, mais en plus, il y a une extériorisation. On n'est vraiment plus le même. Ouais. On est sorti de son tombeau. On est arraché au tombeau. Si je le disais avec les termes de Rousseau, on est arraché à la nature pour entrer dans le domaine de la culture. Même si vous savez que la projection de Rousseau, c'est de dire que la nature de l'homme est bonne. Mais c'est une projection. Rousseau dit cela, on pense de façon à dire, si la nature de l'homme est bonne, dans ce cas-là, l'homme est capable d'une bonne éthique. Si l'homme est pécheur, ben forcément, il peut faire que des âneries, quoi. Donc pour dire que l'homme est responsable, il dit sa nature est bonne. Ensuite, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, le mot prix n'apparaît pas dans le texte grec. Ce n'est pas que j'ai déjà reçu ou remporté, ou que j'ai déjà atteint la perfection, que je sois déjà accompli, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez, être saisi, lambano, c'est ça la foi. Mais après, on saisit nous-mêmes, et c'est ça aussi la foi. C'est-à-dire que si on regarde la dynamique de la foi, c'est qu'à un moment donné, on se fait attraper d'une manière ou d'une autre. On entend une parole, on voit quelque chose, et on est saisi. C'est le chemin de Damas. Mais ça peut être aussi un dimanche matin à l'oratoire. Ou dans un endroit impossible. Parce qu'il n'y a pas de lieu pour ça. Hein, toute terre est sacrée. Et ensuite, une fois qu'on a été saisi, eh bien, on va essayer de mettre des mots et on va saisir à notre tour. Vous voyez, on est d'abord un objet et après on devient un sujet. Eh bien, la foi, c'est ce cercle permanent. On se fait attraper, ensuite on attrape, et on se fait rattraper, et ainsi de suite. Et il y a comme cela un cercle de la foi. Un cercle très vertueux. Donc ensuite, vous voyez, je poursuis, c'est encore le verbe dioko. Hein, quand tout à l'heure je disais, c'est le verbe persécuter, c'est le même verbe, dioko. Le verset 13, j'oublie ce qui est en arrière, je me pense ce qui est vers l'avant. Bon, ça c'est l'événement classique, hein, Sodome et Gomorre. Si vous vous retournez, l'addition va être salée. Le verset 14, donc je cours, et eh bien en fait c'est je poursuis, c'est je persécute, dioko, avec l'appel d'en haut. L'appel de Dieu en Christ Jésus. Le verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, c'est-à-dire qui sommes proches du but, c'est le télos, hein, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et le verbe, c'est apocalyptein, ça veut dire révéler. C'est l'apocalypse, en fait. Alors, ça peut être compris comme, si jamais vous pensez autrement, eh bien, Dieu vous corrigera. Mais non, c'est pas ça qui est écrit. C'est, quel que soit le chemin de pensée que vous prendrez, Dieu vous rejoindra là où vous êtes pour pour éclairer votre sentier, ou plus exactement, pour révéler le sentier sur lequel vous êtes, et éventuellement mesurer la distance qu'il y a entre le sentier sur lequel vous êtes et le meilleur des sentiers sur lesquels vous pourriez vous tenir. On est rattrapé, mais ensuite c'est une proposition qui nous est faite. La révélation, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que notre responsabilité, c'est de profiter de la révélation ou pas. Et là encore, dans la théologie du process, c'est comme cela qu'on comprend la justice de Dieu. Dieu, c'est ce qui nous révèle à nous-mêmes, mais il nous appartient d'en faire quelque chose ou pas. Et si nous ne faisons rien de cette révélation, eh bien nous nous infligeons notre propre condamnation ou notre propre punition. Je reviens à l'autre bout de la vie avec les jeunes. Si on explique aux jeunes qu'ils ont des capacités, mais qu'ils ne font rien de ces capacités, si on leur dit quels sont leurs talents, mais qu'ils ne font rien de leurs talents, eh bien ils s'infligent leur propre punition. C'est la parabole des talents. Qu'as-tu fait de ton talent ? Si vous enterrez votre talent, eh bien en fait vous le perdez, et vous le rendez à l'autre. La parabole est descriptive, elle n'est pas normative. Elle dit tout simplement ce qui se passe quand vous enterrez votre talent. Pourquoi ? Parce que vous avez peur. Plutôt que de l'engager et de risquer de le perdre, vous dites « Ah bah tiens, je vais le garder jalousement. » Eh bien, en fait, c'est comme ça que vous le perdez.
C'est un encouragement à la prise de risque.
Oui. Et c'est une règle en rugby. Quand le Stade français gagne le bouclier de Brennus, c'est parce que les Clermontois, en regroupement, ont voulu garder le ballon au sol. Et du coup, on le rend à l'adversaire dans ce cas-là. Parce qu'on n'a pas le droit de garder le ballon au sol en regroupement au rugby. Bon, ils ont aussi fait des hors-jeux, etc. Et du coup, il y a eu des pénalités. Bon, voilà. Donc, on peut gagner sans marquer d'essai. Tout simplement parce que l'autre fait des fautes. Mais c'est bête de faire des fautes. L'Apocalypse, c'est ça. Le verset 16. Alors, le verset 16, il y a un faux ami. Enfin, un faux ami. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Le verbe, c'est stoikeo. Et alors, c'est un faux ami parce que vous pourriez vous dire « Ah bah tiens, au début, ça parlait des cyniques. Peut-être que là, ça parle des stoïciens. » Sauf que ça ne s'écrit pas pareil. C'est-à-dire que stoikos, de stoïcien, c'est avec un ki, alors que là, stoikeo, c'est avec un kappa. Donc c'est pas le même mot, donc ça marche pas. Et si les stoïciens s'appellent stoïciens, c'est parce que Zénon, qui est à l'origine de cette école stoïque, enseignait sous un porche, et le porche, ça se dit stoa. Si ça vous intéresse, le stoïcisme, pour vos vacances, c'est une discipline intéressante, puisqu'elle consiste à maîtriser la volonté pour n'éprouver ni plaisir ni déplaisir, ni plaisir ni peine, en quelque sorte, tout l'inverse des épicuriens. Et l'idée, c'est l'impassibilité, le caractère inébranlable de la vie, le détachement. Et en fait, c'est pas la voie chrétienne, ça. C'est pas du tout la voie chrétienne. Voilà. Donc, il n'est pas question de stoïcisme ici, donc je referme la parenthèse, c'est un faux ami. Si vous regardez dans le grec et que vous voyez stoïkos, ben, en fait, c'est pas le même mot. Ensuite, ça continue avec Paul, qui est un peu pris en délit quand même d'orgueil, puisqu'il va dire « Eh bien, conformez-vous à moi. » Et c'est intéressant parce que c'est un mimétisme, et c'est même mieux que cela. C'est « sumimétès », ça veut dire « sun » et « mimétisme ». Ça veut dire « ensemble mimétique par rapport à moi ». Et le verbe, regardez, c'est « scopéo », hein, c'est ce qui va donner l'oscilloscope, par exemple. Donc, c'est bien observé aussi. Donc, ce verset 17, « Soyez tous mes imitateurs et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il y a la compréhension de Paul qu'il est un objet de transfert. au sens psychanalytique du terme. Et ensuite, il va opérer un contre-transfert en disant, selon le modèle que vous avez en nous, et le « nous », c'est peut-être pas simplement « lui ». Alors peut-être que c'est un « nous » de majesté, mais il n'y a pas vraiment de « nous » de majesté en grec. « Emas », c'est peut-être « Silas et moi », par exemple. Mais en tous les cas, il y a une communautarisation du modèle. Il explique au verset 18 pourquoi est-ce qu'il faut l'imiter. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Vous voyez, en termes d'impassibilité, on a vu mieux. Paul pleure. Les ennemis de la croix, c'est les petits malins qui ont une théologie de la gloire. C'est ceux qui veulent un Dieu tout-puissant, un Dieu impassible, un Dieu qui ne souffre pas et donc un croyant dans sa superbe qui n'endure rien, qui ne souffre rien. Leur fin sera la perdition parce que leur Dieu est un faux Dieu. C'est ce que disait Bonhoeffer au sujet de la communauté. Il disait « Quelle grâce que vous soyez déçus de votre Église !» Parce que du coup, vous êtes enfin affrontés à la communauté réelle. Et du coup, il vous est possible de rencontrer le Christ. Tant que vous êtes dans la communauté illusoire, la communauté paradisiaque, bien douce, bien lisse, bien mièvre, eh bien vous êtes dans votre rêve. La communauté réelle, c'est celle qui est composée des 12 disciples de Jésus. Eh bien, ce n'est pas folichon. Ça ressemble à la raclure de la société. Moyennant quoi, c'est celle que Jésus a considérée comme étant un modèle. C'est celle qui l'a formée. Et c'est donc celle qui pourrait nous inspirer. Leur fin sera la perdition parce que, en vivant dans leur illusion, ils sont hors sol. Et donc, leur vie est déjà détachée et elle est comme l'herbe des champs. Le vent passe, ils soufflent, et le lieu où elles se trouvaient ne sait déjà plus qui ils étaient. Notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 20. Bien là, c'est les prémices de la cité de Dieu d'Augustin. Il oppose la cité terrestre à la cité de Dieu. Martin Luther fera un peu cela avec la doctrine des deux règnes, disant il y a le règne temporel, une justice des hommes, et puis il y a le règne spirituel, la justice de Dieu. Eh bien, Paul ne dit pas qu'il faut fuir le monde, mais pour reprendre un titre d'émission, il y a les racines et les ailes. Il faut avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Ça signifie que Dieu a vraiment aimé le monde et c'est ici qu'il faut vivre. Mais la logique, ce n'est pas la logique du monde. Ce n'est pas la logique de l'équivalence. Ce n'est pas la logique de un prêté pour un rendu. Ce n'est pas la logique de tu me tapes sur la joue droite, ben je te tape sur la joue droite. C'est la logique du don, la logique de l'amour, la logique de la grâce, de l'inconditionné. Et ça, c'est une logique dite du ciel. C'est-à-dire que c'est une logique qui transcende. Je vous le rappelle, au cas où je ne vous l'ai pas encore bien mis dans l'oreille, c'est la répétition aussi. Cieux, en hébreu, ça se dit Shamaïm. Shamaïm, le haïm, ça laisse entendre que c'est un duel, une forme duel. C'est-à-dire que ce n'est pas un pluriel, c'est une forme duel. Un, deux, beaucoup. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, on doit avoir ça. En tout cas, en Australie, avec les aborigènes, on a ça. Un, deux, beaucoup. Donc, c'est une forme duel. Donc, le mot « sham », deux fois. Et le mot « sham », en hébreu, ça veut dire « là ». « Shamaïm », les cieux, ça veut dire « là » et « là ». Il y a un déplacement. Il y a une transcendance. Ce n'est pas simplement « là », c'est « là » aussi. Donc, ce n'est pas l'histoire de « en bas » et « en haut ». Le ciel, ce n'est pas « en haut ». Le ciel, dans le sens spirituel, c'est « là » et « là ». Ça veut dire que c'est moi et toi, notamment. Donc, il y a une transcendance horizontale. Et notre cité à nous est dans les cieux. Ça veut dire qu'on n'est pas sur notre quant à soi. On ne se suffit pas à soi-même. On n'est pas auto-fondé. Je suis un jeu parce que tu es là face à moi. Et c'est ton regard qui donne corps à mon existence. Pour le dire avec Martin Buber, à peu près. Et je pense que c'est bien d'en finir sur cette notion de transcendance de personne à personne, de relation interpersonnelle, parce que la théologie que développe Paul, c'est bien celle-ci. Il y a tellement d'inattendu dans les rencontres. Paul était assuré de son statut et du bien fondé de son action civilisatrice qui consistait à traquer l'hérésie. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte que ce qu'il nommait hérétique, c'était la source de la vérité. Et il a bien fait de perdre ce qu'il tenait pour définitivement acquis. Ça lui a permis d'obtenir une grandeur d'âme bien plus grande. Et peu importe que son nom soit maintenant inscrit dans l'histoire, pour le reprendre avec un autre texte biblique, son nom est inscrit dans les cieux, ce qui est bien plus intéressant. Voilà.